France Inter.
Au sommaire ce soir, le profil des deux suspects en garde à vue une semaine après le cambriolage du Louvre. Ils étaient déjà connus de la police, nous détaillera Emmanuel Leclerc. Quel budget pour la France? Les débats reprendront demain à l'Assemblée. Le Parti Socialiste menace à nouveau le gouvernement de censure si la taxation des plus riches n'était pas à la hauteur des ambitions de la gauche. À Londres, le prince Andrew, le frère du roi Charles III, eh bien il n'est plus le bienvenu chez lui à Windsor. Nous irons à Londres. La Transat Café L'Or, vous entendrez le témoignage d'un des six skippers élitreuillés hier après le chavirage de leurs trois bateaux. À terre, nous verrons comment la courge a le vent en poupe à quelques jours d'Halloween. Et puis, offrons un livre neuf pour Noël aux enfants des familles les plus démunies. On évoquera en fin de journal l'opération Donnez un livre. La campagne va durer jusqu'au 20 novembre. Le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, avec de la pluie pour démarrer la semaine.
Oui, on a une nouvelle perturbation qui va arriver cette nuit par le nord-ouest et qui arrosera une grande partie du pays demain lundi.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Eh bien, ça n'a pas traîné. Une semaine après le braquage du musée du Louvre, qualifié de casse du siècle, deux suspects sont en garde à vue depuis ce matin. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Service police justice de France Inter, les deux hommes sont déjà connus de la police pour des cambriolages de bijouterie.
Oui, le ministre de l'Intérieur a estimé cette semaine que ce casse du siècle portait apparemment la signature du grand banditisme. Dans le milieu des braqueurs de joailliers, eh bien, Laurent Nunez ne s'est pas trop trompé pour l'instant avec le profil des deux suspects interpellés hier soir. En salle d'embarquement à Roissy et puis tout près de la capitale, deux suspects âgés d'une trentaine d'années. Ils ont grandi effectivement en Seine-Saint-Denis et sont déjà montés sur des bracos de bijouterie. L'enquête s'est accélérée lorsqu'un premier ADN relevé sur la scène du cambriolage du Louvre a matché dans les fichiers de la brigade de répression du banditisme. Les enquêteurs localisent ensuite deux membres présumés du commando, mais se rendent compte hier que l'un d'eux allait bouger, qu'il avait une réservation sur un vol vers Alger, d'où cette interpellation par la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, et des policiers de la PAF, la police aux frontières, dans les allées de l'aéroport parisien. Le deuxième suspect, pisté ces derniers jours, est arrêté dans la foulée. Les deux hommes sont entendus depuis hier soir au 36 rue du Bastion, au siège de la police judiciaire parisienne. Une garde à vue qui pourrait se prolonger jusqu'à mercredi soir.
Et désormais, Emmanuel, comment va s'orienter l'enquête?
Eh bien, l'espoir des enquêteurs de la police judiciaire et de la procureure de Paris, Laure Bécuo, c'est que les deux autres suspects recherchés n'aient pas non plus quitté l'Île-de-France et que les bijoux du Louvre non plus. Si les malfaiteurs ont agi sur commande, ce qui est la première hypothèse dans ce casse du siècle, eh bien l'espoir également c'est que le receleur, lui non plus, n'ait pas pu quitter la région depuis dimanche dernier et qu'il n'ait pas eu le temps de trouver un diamantaire véreux pour les transformer, pour les remodeler.
Emmanuel Leclerc, à Biarritz, 800 000 euros en liquide ont été saisis par les douanes lors d'un banal contrôle routier. Dans un véhicule en direction de l'Espagne, les billets ont aussitôt été mis sous séquestre. Et la brigade de Combeau-les-Bains, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, et bien la nuit suivante, cette même brigade a fait l'objet d'une tentative de cambriolage. Mais l'auteur a finalement pris la fuite sans parvenir à entrer dans le local où étaient stockés les 800 000 euros en billets de 10, de 20 et de 50 euros. À l'Assemblée nationale, c'était jour de relâche aujourd'hui pour les députés à la recherche d'un budget pour la France l'an prochain. Les discussions reprendront demain dans l'hémicycle et en commission pour ce qui concerne le financement de la sécurité sociale. Journée de relâche donc, et ça n'a pas empêché le patron des socialistes, Olivier Faure, de continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Il a une nouvelle fois brandi le spectre de la censure si le gouvernement ne cédait pas dans les prochains jours sur une taxe sur les plus hauts patrimoines.
Nous en sommes au tout début de la discussion et nous avons vu deux articles. Mais si nous ne réussissons pas la semaine prochaine, en réalité, s'il n'y a pas de marge de manœuvre pour corriger ensuite le projet de loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, ce sera en réalité terminé. Parce que de toute façon, nous sommes dans une situation de blocage complet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une majorité qui est si relative qu'elle a besoin à la fois d'aller chercher les LR et besoin de l'abstention des socialistes, des communistes et des écologistes. Si c'est pas le cas, en réalité, ce budget va tomber. Et donc, s'il tombe, eh bien, il n'y aura pas d'autre choix que de censurer et puis ensuite d'aller à la dissolution.
Olivier Faure, aujourd'hui chez nos confrères de LCI. Quant à la ministre des Comptes Publics, Amélie Montchalin, invitée de France Inter à la mi-journée, elle précise que demain, lundi, à la reprise des débats, certains articles seront examinés en priorité, ce qui devrait donc repousser à plus tard dans la semaine l'examen de la taxe Zucman. Les Insoumis dénoncent un jeu de dupes et ils accusent le PS de collusion avec l'exécutif. D'autres dossiers explosifs vont arriver demain matin en commission à l'Assemblée dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et là encore, il faudra trouver des économies à chaque étage pour réduire le déficit de la Sécu à moins de 18 milliards l'an prochain. Il est actuellement de 23 milliards. Et la crainte, Alexis Morel, bonsoir, service économique de France Inter. La crainte pour les associations, c'est de voir les familles les plus pauvres devenir les premières victimes des économies recherchées.
Car l'un des principaux leviers d'économie envisagés par le gouvernement pour la Sécu, c'est l'année blanche, le gel des pensions de retraite et de toutes les prestations sociales, RSA, APL, allocations familiales, entre autres. Elles ne suivraient pas l'inflation en 2026. Bercy parle d'un effort d'ampleur modérée. Mais selon une étude de l'OFCE publiée en juin dernier, ce sont bien les 5% de ménages les plus modestes qui seraient les plus pénalisés par ce type de mesure. Ils perdraient 1% de leurs revenus disponibles, contre 0,5 pour les classes moyennes, 0,3 pour les plus aisés. Pascal Brice préside la Fédération des acteurs de la solidarité qui réunit 900 associations.
On parle de minima sociaux qui sont extrêmement importants mais qui sont déjà très faibles, avec lesquels les gens survivent en réalité. Vous avez des niveaux de pauvreté jamais atteints depuis 30 ans en France. Dans ce contexte-là, ces mesures-là qui pèsent sur les plus fragiles et celles et ceux qui les accompagnent ne sont pas compréhensibles.
Autre source d'inquiétude pour les associations dans ce projet de budget de la Sécu, le doublement des franchises médicales sur les médicaments, les consultations. Le gouvernement assure toutefois que 18 millions de Français parmi les plus modestes en seront exemptés.
Alexis Morel, service économique de France Inter. La course aux municipales. À Paris, c'était une dure semaine pour Rachida Dati à 5 mois des élections. La ministre de la Culture est candidate dans la capitale. Elle est investie par les Républicains et elle s'est retrouvée sous le feu des critiques cette semaine après le braquage au Louvre. Et elle est finalement, bonjour Marie Mollet, service politique de France Inter, Rachida Dati est finalement lâchée par le parti Renaissance de Gabriel Attal.
Dimanche dernier, 9h30, les bijoux de la couronne disparaissent dans la nature. Aussitôt, la gauche parisienne choisit sa cible. Rachida Dati, la ministre de la Culture, plus occupée à faire campagne qu'à sécuriser le Louvre. Sa responsabilité est engagée, attaque Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à Paris. D'ailleurs, elle doit démissionner, surenchérit le communiste Yann Brossa. Puis, mardi, coup de théâtre, le parti Renaissance, cette fois, fait savoir qu'il pourrait ne pas soutenir Rachida Dati à Paris et lui préférer un autre candidat, Pierre-Yves Bournazel, un proche d'Édouard Philippe. La décision doit être entérinée la semaine prochaine par les instances du parti, après des mois d'hésitation, car le cas Dati a divisé les macronistes à Paris. La frange, issue de la gauche, mal à l'aise avec cette alliance avec LR. Et puis il y a ses ennuis judiciaires, ses mises en examen dans l'affaire Renault-Nissan. Rachida Dati, elle, n'a pas attendu l'officialisation pour répliquer et dénoncer tous ceux qui seraient tentés par la division. Son entourage se rassure, les Parisiens veulent du changement, ils ne voudront pas voter pour une candidature de témoignage. Et le changement, nous dit-on, c'est elle.
Marie Mollet, service politique de France Inter.
France Inter. Éric Delvaux.
Ne partons pas fâchés. À Kuala Lumpur, Donald Trump a signé aujourd'hui des accords commerciaux avec la Malaisie, le Cambodge et la Thaïlande, accords notamment sur les terres rares. Le sommet des pays du sud-est asiatique dure jusqu'à mardi en Malaisie et il a donné l'occasion au président américain de se rabibocher avec le Brésil et son président Lula qui participe aussi aux discussions en Asie. Leur tête-à-tête a déjà engendré de nouveaux accords commerciaux, Sébastien Berriot.
Le bras de fer qui oppose le Brésil aux États-Unis depuis quelques mois est un cas à part dans la vaste offensive commerciale mondiale lancée par Donald Trump. À la question des droits de douane, s'est ajouté le sort de l'ancien président Jair Bolsonaro, allié de Donald Trump. Dénonçant une chasse aux sorcières, le président américain avait tenté d'empêcher son procès au Brésil et en avait fait une question de principe imposant aux Brésiliens des droits de douane de 50% sur leurs produits phares, le café et la viande de bœuf. La page semble aujourd'hui tournée. Le tête-à-tête entre les deux présidents s'est déroulé dans une ambiance très cordiale. Donald Trump a affiché sa volonté de retirer ses droits de douane, volonté suivie des faits puisque aussitôt après la rencontre, les délégations du Brésil et des États-Unis, présidées par les deux chefs de la diplomatie, se sont mises au travail à Kuala Lumpur pour formaliser un accord qui doit permettre de relancer le partenariat entre les deux premières puissances de l'Amérique du Nord et du Sud.
Sébastien Berriot, envoyé spécial de France Inter en Malaisie. Le prince Andrew va-t-il devoir quitter son logement de Windsor, un logement qu'il occupe depuis plus de 20 ans. Le frère du roi Charles III est englué dans l'affaire Epstein et il serait même en discussion avec les conseillers de son frère pour qu'il quitte cette résidence. À Londres, Laura Calmus.
À Windsor, des journalistes campent jour et nuit devant les grilles de Royal Lodge. C'est ici, dans cette demeure de 30 pièces, que vit depuis plus de 20 ans le prince Andrew, désormais plus isolé que jamais. Selon la presse britannique, le frère du roi Charles III est sommé de quitter les lieux. Déchu de ses fonctions officielles depuis 2019 et privé de ses titres royaux, il n'aurait pas payé de loyer depuis plus de 20 ans. Mais les pressions viennent aussi du Parlement. Des députés libéraux-démocrates réclament un débat pour lui retirer légalement son titre de duc d'York, ce qui nécessiterait une loi. Cette nouvelle tempête intervient alors que les mémoires posthumes de Virginia Giuffre, principale accusatrice dans l'affaire Epstein, relance les accusations d'abus sexuels contre le prince qu'il continue de nier. Et pour ajouter à la tension, William et Kate doivent bientôt emménager à 2 km à peine dans un climat où même Buckingham Palace semble vouloir tourner la page Andrew.
Laura Calmus, correspondante à Londres, la Transat Café L'Or, avec comme un faux départ aujourd'hui pour une partie des skippers qui ont quitté le Havre en début d'après-midi à destination de la Martinique. Mais à cause du gros temps, les bateaux de la classe 40 ont été priés d'aller se mettre à l'abri à La Corogne en Espagne où un nouveau départ sera donné. Et hier, parmi les 10 bateaux de la catégorie 50 Ocean, 3 se sont retournés, ont chaviré. Les 3 binômes ont été élitreillés, ils sont sains et saufs. Et parmi eux, Erwan Leroux, dont le bateau a basculé à 2h25. C'était au large de Guernsey, le mât cassé. Erwan Leroux vient de raconter sa mésaventure à Catherine Potier sur France Info.
Il y avait des grains qui étaient attendus pour cette deuxième partie de nuit. Et donc, en fait, dans une risée, on s'est fait surprendre avec Audrey, malgré nos actions sur les voiles pour les lâcher complètement. Le bateau est parti sur une vague et puis il nous a basculé sur le côté. Et ça a été d'une rapidité assez étonnante. On s'est retrouvé éjecté et direct, le mât s'est cassé. Tout ça dans la nuit noire, donc dans notre malheur, on a une chance incroyable, c'est que le bateau il a traversé tout un tas de rochers pour s'échouer sur une langue de sable. Il y a tout un espèce de chaîne humaine qui s'est formée à Guernsey et en fait on a pu vider le bateau. Il y a un cordon de sécurité qui s'est mis autour de la plage parce que ça a fait l'animation du dimanche. Vous imaginez bien la Guernsey pour les promeneurs et les joggeurs du matin. Et ce soir, le bateau est en sécurité. Et c'est quand même un gros soulagement en tous les cas pour mon équipe et pour moi-même, pour mon partenaire.
Et pour ceux qui ont réussi leur départ, l'arrivée est prévue en Martinique aux alentours du 5 novembre. Et sur les routes, en ce dimanche de chassé-croisé de la Toussaint, les stations-service rivalisent d'ingéniosité pour attirer les conducteurs. Exemple, sur l'autoroute A20 dans le Limousin, Total Energy propose un nouveau service original sur l'aire de Porte de Corée. Et vous y rencontrerez peut-être Tony. Tony est borniste pour les recharges électriques. Une sorte de pompiste 2.0, Michael Chailloux.
Gilet orange sur le dos, Tony accueille les automobilistes devant les bornes de recharge.
Bonjour monsieur.
Il leur indique les bornes libres.
La 2 et la 3.
Et donne un coup de main en cas de difficulté.
Très accueillant et très prévenant.
Eric roule depuis le nord de la France jusqu'au Périgord.
Je connaissais pas et puis bon, parfois le badge fonctionne pas. Ouais. Et vous étiez là justement pour me conseiller et puis tout est bien passé. Ma voiture est rechargée, je peux reprendre la route en toute tranquillité. Et j'ai bien apprécié sa prévenance aussi, surtout il est venu tout de suite.
Un point d'honneur pour Tony.
Avant tout le grand sourire.
Et son cahier à la main quand il y a du monde devant les bornes.
Je prends la plaque d'immatriculation.
leur numéro de téléphone.
Et quand une borne est libre, Tony les rappelle et les accompagne du début jusqu'à la fin.
Je leur explique, je vais avec eux jusqu'aux bornes. S'ils ont une difficulté, je les aide. Ça aide aussi à avoir un côté apaisant.
En plus, Tony parle portugais, espagnol, un peu anglais. Il a commencé ce poste cet été et Mélène Bouer, la directrice de la station, ne peut plus s'en passer.
Le fait qu'on ait un borniste aujourd'hui sur nos stations, ça permet de fluidifier et d'organiser les recharges des clients. Et vraiment de les orienter aussi sur la bonne charge, sur la bonne borne qui va pouvoir correspondre à leur véhicule.
Et Tony reste aux bornes jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, avant de retourner à la caisse jusqu'aux vacances de Noël, où il compte reprendre son poste.
Un reportage ici, Limousin. Honneur aux courges à présent. Et cette saison, avant les premières gelées, nous partons à Peltres, c'est près de Metz. Là-bas, les amateurs de ce cucurbitacé sont venus les cueillir dans un champ en plein air qui fait office de commerce maraîcher. Et à quelques jours d'Halloween, ce sera vendredi, courges et autres citrouilles séduisent les petits comme les grands. Fabien Matisse.
William est venu avec son frère et sa maman cueillir des citrouilles.
Parce que c'est Halloween.
Et il sait déjà ce qu'il va en faire.
On va les découper, les décorer. On va mettre des lampes à l'intérieur. Et on va les mettre sur les fenêtres.
Pour Arlette, les courges serviront à toute autre chose.
La soupe, on fait le gratin, on fait tout avec les courges. On les met au congélateur, on les garde, on refait la soupe en hiver.
La retraitée, elle, teste toutes les variétés.
Ça, c'est le bleu de Hongrie, puis là-bas, c'est des vertes. Une fois, je me suis fait avoir, j'en ai acheté. Ils n'étaient pas comestibles, mais bon, je me suis fait rouler, c'est tout.
Et ce n'est pas les sortes qui manquent à la cueillette de Peltres. Cette année, le gérant Vincent Tillemant a même semé quelques graines en plus.
Très belle récolte, exceptionnelle. On avait misé beaucoup là-dessus. On manque tous les ans de certaines variétés, tout ça. Donc là, cette année, on a mis 2 hectares de plus que les autres années. Ouais. On a dû faire une quinzaine de bennes.
Soit 45 tonnes de récoltées. Et il assure que cette année devrait être une saison record pour le cucurbitacé.
Un reportage ici, Lorraine. Et pourquoi ne pas offrir des livres neufs à des enfants qui n'en ont pas? L'opération Donnez à lire nous invite à acheter un ouvrage qui sera remis pour Noël à un enfant défavorisé. C'est un partenariat entre 800 librairies et le Secours Populaire à la librairie L'Instant. C'est dans le 15e arrondissement de Paris. Reportage de Faustine Calmel.
Sur la porte d'entrée, l'affiche de l'opération est scotchée. Difficile de la rater. Même chose au comptoir où Céline est sur le point de participer.
Et là, je m'apprête à ajouter Bibundé, l'histoire apparemment d'un petit pingouin. Quand on est enfant, même ado, c'est important de recevoir quelque chose qui ressemble à un vrai cadeau. Comme, vous savez, la neige, quand elle est vierge et qu'on met le premier pas dedans, et ben ça nous appartient aussi vraiment. Et après, il peut être gribouillé, il peut être griffonné, c'est pas important.
Le livre rejoint dans une boîte ce déjà offert.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits livres sur l'histoire, mais pour les petits.
Sandrine Babu est la gérante de la librairie L'Instant.
Un grand classique aussi, qui est Claude Ponty, le château de Anne Iversaire. Moi, ce que j'aime bien dans cette opération, c'est l'idée que en fait, les clients ils vont choisir un livre qui est important pour eux. Donc, c'est une sorte de transmission qui se passe, en fait. Parfois, ils passent un quart d'heure à choisir le bon livre qu'ils veulent offrir. Et c'est ça que je trouve vraiment magique dans l'opération.
Fin novembre, les équipes du Secours Populaire viendront récupérer les cartons remplis ici. L'an dernier, l'opération Donner à lire a permis d'offrir 28 000 ouvrages à des enfants accompagnés par l'association.
L'opération Donnez à lire, c'est jusqu'au 20 novembre pour offrir un livre aux enfants parmi les familles les plus démunies. Et vous trouverez la liste des boutiques partenaires sur le site du syndicat de la librairie française. Avis à présent, avis aux dresseurs de Pokémon. Les Pokémon, ce sont ces petites créatures imaginaires sur des cartes pour les collectionneurs. Le phénomène des années 2000 devient un jeu vidéo. Près de 3000 dresseurs de Pokémon, comme on les appelle, se sont retrouvés ce week-end à Lille pour les championnats régionaux. L'objectif est d'affronter d'autres joueurs et de se qualifier pour les championnats du monde de Pokémon qui auront lieu aux États-Unis en 2026.
Pour les parents qui hésitent à mettre leur enfant à Pokémon, c'est un bon moyen de les stimuler, leur apprendre à lire, leur apprendre à faire des maths, parce qu'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de lectures. Donc je dirais que ça peut renforcer l'école. J'ai eu pas mal de témoignages de gens qui ont réussi, grâce à Pokémon, à motiver leur enfant en milieu scolaire. Donc vraiment, c'est quelque chose de vertueux.
L'avantage de Pokémon, ça fait beaucoup travailler les maths, calculer les dégâts, quand on a des multiplications, des divisions, des soustractions, des additions. Par exemple, si je fais 150 dégâts sur un Pokémon adverse, mais qu'il en a 230, je fais des soustractions, quoi. pour savoir combien il reste, ou j'additionne des dégâts que j'ai fait plusieurs fois.
C'est un sport, hein. C'est un sport intellectuel. L'erreur, elle est pas tolérable comme aux échecs. À chaque réjo, il y a un changement qui l'oblige à se mettre à jour à chaque fois. Donc, il peut pas juste se reposer sur ses acquis. À chaque fois, ça change et il faut repartir sur un nouvel entraînement, nouvelle conception de deck et tout ça.
Voilà, à propos de dresseur de Pokémon, au micro d'Alexandre Thibault, ici Nord. Enfin, retenez cette nouvelle interdiction du spectacle pour l'humoriste controversé Dieudonné. Aujourd'hui, c'est la préfecture d'Indre-et-Loire qui lui a interdit de se produire dans les environs de Tours. Dieudonné a plusieurs fois été condamné pour des propos à caractère antisémite ou incitant à la haine raciale. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec encore des averses demain.
Oui, on n'en a pas fini.
Demain matin même. Hein.
Oui, on n'en a pas fini avec les perturbations. Elles s'enchaînent depuis une semaine et demain, effectivement, on aura une nouvelle perturbation qui va faire son arrivée entre la Normandie, la Picardie, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, en descendant même jusqu'aux Alpes du Nord. Elle apportera un ciel couvert bien pluvieux. On attend de bons cumuls, notamment sur les reliefs de l'Est, et de la neige à partir de 1100 mètres le matin, un petit peu plus haut pour l'après-midi. Pour le reste du pays, on aura toujours cette alternance de nuages, d'éclaircies et de possibles averses, hein, toujours ce fameux ciel de traîne. Mais le soleil brillera quand même largement près de la Méditerranée, toujours au prix d'un vent soutenu. Du soleil, on en aura aussi sur les Pyrénées et les Hauts-de-France dès le matin. Notez qu'on aura également du vent sur toute la moitié nord, puisque les rafales iront jusqu'à 60 km à l'heure dans les terres.
Et pour les températures?
Pas beaucoup de changements. On va regagner quand même 1 ou 2 degrés avec une moyenne le matin de 4 à 13 du nord au sud. Et pour les maximales, elles iront de 10 à 15 sur la moitié nord, 13 à 18 degrés plus au sud, jusqu'à 22 encore près de la Méditerranée.
C'était Céline Dacosta.